Est-ce qu'il y a des questions sur comment décodifier les différentes phrases ou est-ce que ça c'est bien clair? Oui, tu as une question. Vas-y.
Moi, on s'est posé une question avec Nathalie sur le fait que moi j'ai dit dans mon cas que je sais quand ça vient aussi d'une personne, quand je vois la satisfaction d'une personne extérieure.
Ok, quand tu vois la satisfaction d'une personne extérieure. Alors, à première vue, ça paraît comment? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Laurent interprète ce qu'il voit chez l'autre. Donc, c'est principalement interne. C'est lui qui décide ce que ça veut dire. J'aimerais vous donner un indice aussi. Si vous êtes avec la personne et que vous posez la question, regardez ses mains. On fait une petite démonstration, Véronique. Comment sais-tu que tu as fait du bon travail? Oui, voilà. Alors, Véronique se pointe du doigt. Alors, c'est quand même une indication, n'est-ce pas? Alors, il y a une autre question qu'on a inventée il y a quelque temps, une question de vérification. Si on va suivre la règle de notre méthode rigoureuse, empirique et scientifique, il faut quand même avoir des moyens de vérifier. Alors, l'autre question aussi, si on n'est pas clair, on n'est pas certain, tu peux dire à la personne, où est-ce que tu sais ça? Si, pour ce contexte-là, elle va se pointer du doigt et dire, eh bien, je sais. S'il y a un schéma externe, elle ne comprendra pas la question. Qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce que je sais ça?
Elle dira pas, je le vois comme ça?
Ça se peut qu'elle va se manifester du doigt à l'extérieur, mais souvent, la personne pense que tu es complètement folle. Et alors, c'est quel type de question que tu me poses là? Parce qu'elle n'a pas la réponse dans son corps. Chacun de nous, on a des contextes différents, des contextes où on fait des choses différentes. Alors, par exemple, comment sais-tu que tu as choisi des habits qui te vont bien? Comment le sais-tu, Christine?
À la fois quand je me regarde dans la glace et que je me trouve bien.
Ok, ça c'est interne.
J'ai quand même besoin qu'on me dise.
Et qu'on me dise que ça te va.
Oui.
Alors moi, mon problème, j'ai aucun critère interne pour les habits. J'ai besoin d'emmener quelqu'un avec moi pour me dire, fais ça et fais surtout pas ça. Ok, voyez-vous, comment sais-vous, alors ça c'est quelque chose d'émotionnellement chargé. Comment sais-tu que tu es une bonne mère ou un bon père de famille? Alors, beaucoup de parents se sentent jugés par le comportement de leurs enfants dans les lieux publics. Alors là, c'est perdant, perdant, perdant. Franchement.
C'est pour ça qu'on dit « j'ai honte, c'est pas ma fille ». ».«
J'ai honte, c'est pas ma fille ». Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une annonce... À la télévision belge que j'ai reçue justement par l'internet, c'est parfois on envoie des annonces et c'est l'histoire de monsieur qui va faire ses courses au supermarché avec son fils. Et le fils il a 4 ou 5 ans et le fils il met des bonbons dans le chariot et le papa regarde le fils et il enlève les bonbons du chariot. Alors le fils, il s'emporte un peu, il remet les bonbons. Et le papa, il enlève les bonbons. Alors à ce moment-là, le fils, il pique une crise pas possible. Il retourne le chariot, il vide toutes les étagères autour de lui. Il est en train de crier, de gueuler, de donner des coups de pied à tout et n'importe quoi. Et autour de lui, on voit tout le monde qui regarde le papa en disant « mais t'as pas bien fait ». Alors que le papa, il est coincé, il sait pas quoi faire, et tout le monde lui font aussi des soucis en disant, en voulant dire que, écoute, fais quelque chose, c'est ton fils, voyons. Et ça va, et ça vient, et vraiment, le gars, il est coincé, il sait pas quoi faire, alors que l'enfant, maintenant, il est détruit complètement le magasin en entier. Et là, la scène noircit, devient tout flou, tout noir, il y a les mots qui ressortent, utiliser des capotes. C'est une annonce pour des capotes. Alors, nous, en juif, on dit c'est trop peu, trop tard, mais bon. Et c'était ça l'annonce. Alors, s'éloigner d'eux, ouais, oui. Pour éviter, dans un avenir proche, alors tous ceux entre vous qui n'ont pas encore d'enfants, bon voilà. Voilà l'avenir qui vous attend.
Moi, je voudrais revenir sur ce que tu as dit. Tu as dit quand il y a quelqu'un dont tu veux vérifier hein, s'il est plutôt interne ou externe, de lui poser la question où est-ce que tu sais ça et si il sait, c'est qui est probablement dans l'interne, si ce n'est pas, c'est qu'elle est dans l'externe. Est-ce qu'on peut retourner la question? On a quelqu'un à qui on pose une question pour savoir où est-ce qu'il place le malaise, par exemple. Si ce n'est pas, est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est sûr que...
Non, je pense que tu vas trop loin, là.
Voilà, c'est...
Parce que là on rentre dans ce qu'on peut imaginer de ce qui se passe. Et là, quand on imagine qu'il doit se passer pour l'autre, c'est moi qui lis dans mon imagination ce qui se passe pour l'autre. Et au fur et à mesure qu'on avance, on va voir qu'on fait toujours les tests empiriques chez l'autre. Une fois qu'on a fait toutes les caractéristiques de motivation, on va faire une pratique où vous allez avoir l'occasion tout ensemble de poser des questions et de cocher ce que vous croyez être la bonne réponse. Après, comment tester d'une manière conversationnelle. Donc, c'est pas tout le monde qui va faire des profils en tant que tel, mais c'est très utile d'avoir la capacité de glisser une question dans la conversation et de pouvoir gentiment la vérifier pour que vous sachiez quelle est la bonne route à prendre avec une personne ou à pas faire d'erreur avec elle. Voyez-vous? Mais parlons maintenant des implications de cette histoire de interne-externe.
Pardon,
oui, tu as une autre question?
Si on dit j'ai atteint l'objectif par rapport à des choses qui ont été mises carrément sur papier, mesurables, quantifiables, le temps, le coût, etc. Et que aussi bien moi qu'un patron, que des collègues peuvent dire bah, ok, ça c'est atteint, ça c'est atteint, c'est quoi ça?
Là, on ne le sait pas. Et ça, il faut vérifier. Par exemple, moi je demanderais qui a fixé, c'est les objectifs de qui? Mm-hmm. On me les a donnés. Ouais. Et c'est eux qui décident quand j'ai... C'est dans les chiffres. Alors d'accord. Ça, c'est plutôt externe.
D'accord.
Alors, c'est je me suis fixé des objectifs et j'ai décidé quand je l'aurai atteint. Là, ça va.
Même sur les écrits externes et qu'on compare avec les...
Oui. Ouais, oui, parce que souvenez-vous que lorsqu'on est interne, c'est pas qu'on ignore ou on fait pas partie, on ne prend pas en conscience, en compte ce qui arrive à l'extérieur. C'est qu'on va s'informer ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est moi qui décide ce que ça veut dire. Donc je regarde les données et je décide que ça veut dire que j'ai réussi ou j'ai pas réussi.
La plupart des directeurs sont...
Les directeurs sont souvent internes à propos de leur travail et le travail des subordonnés, mais souvent externes vis-à-vis de leur, du conseil d'administration, par exemple. Donc ça change, tu vois, la dépendance. Je suis... Pardon?
Il n'y a pas une notion de hiérarchie là-dedans?
Ah, mais si, mais si. Bon, je fais une généralisation, il vaut mieux être savoir ce qui se passe pour le vrai. Un autre commentaire,
oui. Oui, tout à l'heure, on a vu que si j'évalue que je travaille bien à la satisfaction de l'autre, tout dépend comment. Si la satisfaction, c'est pas simplement à l'observation de l'autre. Bon, là, à ce moment-là, je vais l'évaluer en interne.
Oui.
Mais si j'évalue la satisfaction de l'autre en lui posant la question.
Alors, l'idée, c'est de savoir. Alors, tu dis, tu es toujours le sujet de tes actions. C'est toujours à l'intérieur dans la manière que tu dis. Je pose les questions pour savoir ce que le client pense. Mm-hmm. Et quand il me dit qu'il est content ou qu'il n'est pas content, mettons, on va faire un test juste pour savoir. Mm-hmm. Tu as posé une question à ton client pour savoir s'il est content. À un moment où toi, tu as pensé faire du bon travail avec lui. OK? Et tu poses la question à ton client pour savoir si lui est satisfait. Et mettons qu'il ne manifeste pas une très grande satisfaction. Est-ce que tu as fait du bon travail?
En interne, oui.
Non, ça ne signifie pas nécessairement que j'ai fait un bon travail. Enfin, ça dépend. Je poserai peut-être d'autres questions.
Ah oui, il n'est pas convaincu parce que l'autre a dit non. C'est toi qui décides si tu es d'accord avec lui ou pas d'accord, n'est-ce pas? Donc c'est toujours en interne. Ça m'amène à dire, quand quelqu'un est en position interne et qu'il reçoit une critique ou une manque de satisfaction, il juge si oui ou non il est d'accord avec ça. Si je suis externe au moment donné et que tu me donnes une critique ou tu ne me donnes pas de feedback, je me remets en question. Alors, exemple. Tu sais, je suis souvent motivée par les choses en éloignant. Alors, un jour, je ne vois plus la couleur de mon bureau. Tellement il y a un gâchis dessus de livres, de papiers, etc. Alors, je décide, du coup, j'ai besoin d'une étagère de livres. Et j'ai besoin de quelque chose rapidement parce que j'ai envie de nettoyer tout ça. Alors, je m'en vais chez IKEA. Vous connaissez IKEA?
Oui.
Je hais IKEA, juste pour que vous savez mon billet. Donc, on reviendra dessus tout à l'heure sur IKEA. Mais en tout cas, parce que je trouve qu'ils sont tout le temps en train de te dire qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut faire. OK? Alors, j'essaie de trouver un étagère de livres, mais non, je ne peux pas aller directement au département d'étagère de livres. Il faut d'abord passer par cuisine, salon, salle de bain et salle à coucher, comment tu dis, chambre à coucher. Finalement, j'arrive chez les étagères, je choisis celle que je veux, je descends en bas et là, je trouve quelqu'un qui est plus grand que moi pour sortir ça de l'étagère parce que c'est toujours ailleurs où je ne peux pas l'atteindre. Je fais la queue, j'arrive chez moi et voilà, les problèmes commencent. Pourquoi? Parce qu'il faut le monter. Alors, ils sont futés quand même parce qu'ils ont des notices avec des mots et des images. Okay. Moi, j'ai une préférence des mots, mais bon, il y a des images aussi. Et moi, je dois vous dire que je ne suis pas très habile dans les choses menuisières et autres choses. Mais j'ai quand même une certaine détermination. Alors, une étagère de livres, ce n'est pas compliqué. Il y a 4 étages que tu alignes comme ça, tu mets les côtés. Et jusqu'à là, il n'y a pas de clou, il n'y a pas de marteau, ça va comme ça. Il y a une pièce qui rentre dans l'autre. Là, après, j'ai mis les quatre étages, les deux côtés, ça allait bien. Après, il faut poser le dos, l'endos. Et normalement, selon les instructions, il y a les trous dans le dos qui doivent s'aligner aux trous dans le bois. Alors, j'ai remarqué que les trous ne s'alignent pas. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? C'est IKEA, bien sûr. Est-ce que moi, je me questionne de ce que j'ai fait parce que les trous ne s'alignent pas? Mais non, c'est la faute d'IKEA. Parce que c'est du cheap, comme on dit en anglais. C'est pas du bon design, c'est vraiment un bon marché. Voilà ce qui arrive. Alors, je le force. Et je l'oblige à rentrer parce que j'ai la détermination quand même. Pas la compétence, mais la détermination. Je remonte mon étagère de livres et là, je vois que le bois, c'est le bois de... Comment tu... Compressé. Le bois compressé devant, en haut et en bas, parce que les deux étagères du haut et du bas ont été retournées. Alors, décodifiant, qu'est-ce que s'est passé? J'ai quand même remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Est-ce que je me suis remis en question? Oh non! C'est la faute d'IKEA. Alors, mettons, j'avais quand même décidé de me mettre externe aux instructions. Et quand j'ai vu que ça n'allait pas, à ce moment-là, j'aurais mis ce que j'ai fait en question. Alors, où il y a le plus grande flexibilité, en interne ou en externe?
Peut-être en externe.
Vous voyez, si vous voulez apprendre quelque chose de nouveau... Est-ce qu'il vaut mieux se mettre en externe ou en interne?
En externe.
En externe, parce que c'est très difficile de juger et d'apprendre en même temps. Alors, ça veut dire que pour les formateurs, il faut d'abord établir sa crédibilité avant d'établir le rapport avec un groupe. Parce qu'il faut que les gens soient d'accord à se mettre en externe vis-à-vis de vous. Parce que s'ils sont tout le temps en train de juger chaque phrase qui sort de ta bouche, ils n'apprendront rien. Alors voici le pire des stratégies pour créer ça que j'ai jamais entendu. J'ai entendu ça souvent en France. Eh bien, messieurs, dames, je suis contente que vous veniez à notre cours aujourd'hui et nous allons faire quelque chose de nouveau. Et du coup, j'aimerais que vous laissiez ce que vous savez déjà sur ce sujet à la porte pour que vous ayez vraiment un esprit neuf pour apprendre ça. Vous me dites ça et là, dans ma tête, le dialogue interne s'installe en disant, vous pensez que ce que je sais, vous n'êtes pas à la hauteur de ce que je sais déjà, moi, à ce sujet? Vous voyez, donc c'est vraiment froissé. La meilleure manière de rentrer un groupe en externe vis-à-vis de vous, c'est d'utiliser le langage interne. C'est le langage de suggestion. Du moins, c'est ce que je pense. C'est à vous de décider. Voilà. Alors, et démonstration exemple. OK? Donc, le principe de base que je vais démontrer, c'est que si je veux qu'un groupe d'étudiants ou d'un groupe de participants se mettre en externe vis-à-vis de moi, ça veut dire que je veux qu'ils me croient quand je dis quelque chose. Dans le minimum des cas. Des consultants experts doivent faire la même chose. C'est pas la peine que tu vas t'exprimer si on te dit, mais qu'est-ce que tu vas dire ça? Si c'est pour faire ça après, tu as perdu ton temps. Parce que ça veut dire que tu n'as pas établi la crédibilité. Alors, comment faire? C'est au lieu d'utiliser un langage directif, je te dis quoi penser. Ça, c'est un langage d'influence externe. Parce que si tu es externe vis-à-vis de moi déjà, je te dis sauter, tu dis d'accord. Voilà. Ou si je te dis asseyez-vous, vous allez vous asseoir. Alors, moi, je préfère présumer que tous les groupes avec lesquels je dois travailler sont remplis de gens hyper internes, qui sont tous là, en interne, et non seulement en interne, mais en éloignant, disant, je sais pas si je suis convaincue par cette bonne femme-là. Qu'est-ce qu'elle sait? Elle est qui? Ah, je suis pas d'accord avec ça. Alors, les gens me disent, mais Michel, t'es vachement négative dans ton approche, mais non, je dis, écoute, ça m'est déjà arrivé dans mon passé qu'ils ont été tellement enthousiasmés quand ils m'ont embauché pour faire un travail dans une équipe que je croyais que tout le monde était aussi enthousiaste. Et j'arrive là pour voir que non, il n'y a personne qui est d'accord pour être là. Ça vous est déjà arrivé?
Oui.
Et donc, pour justement remettre les choses les rails, à mon avis, il vaut mieux utiliser ce que j'appelle un langage de suggestion. Du moins, c'est mon idée. Et on va... Attends. Voilà, langage d'influence, parce que ce n'est pas moi qui va décider à votre place. Vous êtes les seuls à pouvoir décider si oui ou non vous êtes d'accord avec ce qu'on fait, ou si c'est une bonne idée, ou si ça va marcher, parce que vous êtes les experts dans vos domaines. Vous connaissez vos clients, ce n'est pas moi qui les connaissais. Donc c'est à vous de juger si ça marche ou ça ne marche pas. Ça, c'est le langage de suggestion. Vous ne saurez pas si vous n'essayez pas pour vous-même. Ça, c'est éloigneur, un peu aussi, interne. Vous pourriez prendre en considération. Et là, récemment, voilà, ce genre de langage de suggestion. C'est ce que je crois, moi, mais c'est à vous de décider. Si la personne est externe, vous lui dites quoi faire, il va le faire. Mm-hmm. Comme vos enfants.
Pas les ados.
Hein. Pas les ados, c'est ça. Et d'ailleurs, si la personne est externe, on peut lui dire, mais écoute, tout le monde fait ça, et il va le faire lui aussi. Ou on pourrait lui dire, par exemple, mettons Véronique, tu as un schéma externe, je te dirais à ce moment-là, mais écoute, tu me fais ça, et tout le monde va apprécier ça, c'est sûr. J'aimerais faire un autre exemple, une autre démonstration, si ça vous aidera un peu.
Quand on est formateur, on se met en position interne parce qu'on est sûr de ce
qu'on... Non, c'est le contraire.
C'est lorsqu'on doit faire en sorte que, à mon avis, pour aider les gens à apprendre, il vaut mieux qu'on les amène à devenir externes à mon égard.
Oui, externe, mais vous êtes interne.
Je fais un peu des deux, parce que moi, je peux être convaincue que vous avez compris, alors que vous me dites que vous n'avez pas compris. Alors, si je ne tiens pas votre vue, votre opinion en compte, je ne vais pas m'adapter à vos besoins. Ça sonne une cloche quelque part. Oui.
Ça veut dire que c'est plus difficile de convaincre quelqu'un qui est en interne.
Absolument. Absolument, parce que c'est lui qui décide. Mmh. Alors, démonstration, je vais faire une démonstration avec une chose pratique. Vous voyez ma feutre ici. Mon feutre? Mon feutre. Ça me tracasse toujours, toutes ces années plus tard, et j'ai toujours pas mon masculin, mais féminin, etc. Oh ouais, anyway. Alors, vous voyez mon feutre. C'est le meilleur feutre qui a été produit pour ce prix-là. Quand vous utilisez ce feutre-là, vos collègues vont être très impressionnés. Du coup, en fait, ils vont te dire que c'est impressionnant que tu utilises ce feutre-là. Parce que uniquement les experts dans votre domaine, dans ton domaine, utilisent ce feutre. Et moi, j'apprécierais beaucoup si vous l'utilisez. D'ailleurs, je te dis, c'est le meilleur. Je ne vais pas te mentir. Alors, qui est-ce qui veut acheter ce feutre? Alors Christine me dit, il n'y a pas question.
Moi, je me dis, tu parles.
Oh, alors, combien veulent l'acheter? J'ai même pas une personne. Bon, même pas une sur 20. Alors, ben oui, tu soulèves le petit doigt, c'est ça? Un petit peu tenté. Alors, il est clair que c'est pas moi qui va vous convaincre d'utiliser ce feutre. Parce que, bon, je pourrais vous dire toutes les recherches qui ont été faites sur ce feutre. Mais ça change en rien. Parce que j'ai l'impression que la seule façon que vous allez savoir si c'est votre feutre, c'est de l'essayer d'en juger par vous-même. Alors combien d'entre vous ont envie de juger, de l'essayer et de le juger par vous-même? Alors j'ai 9 sur 10 à peu près. Ça, c'est la stratégie pour gagner des élections d'ailleurs. Parce que les adultes ne veulent pas qu'on leur dise quoi faire. Dans la plupart des cas, il y a des différences culturelles aussi, mais en règle générale, on leur dit quoi faire et on vous dit ce que vous pouvez faire avec ça dans les élections. Donc il vaut mieux avoir un langage où on invite les gens à juger pour soi-même. Et là, j'ai dans le livre, j'ai donné plusieurs exemples des campagnes électorales avec le langage et l'effet de ça. Avec des gens qui sont très internes, c'est la suggestion qui a plus de chances à passer. Ils n'ont pas les faits. Dès que vous commencez à énoncer les faits, l'autre va l'interpréter comme si tu lui donnes un ordre. Et s'il est interne, il va le rejeter sans même l'avoir écouté. Combien d'entre vous ont eu des expériences comme ça où vous avez énoncé des faits comme si c'était comme ça et l'autre vous a envoyé balader? Donc, à mon avis, alors attention, alerte, démonstration, à mon avis, il vaut mieux faire des suggestions, mais ce n'est pas à moi de vous le dire, vous allez expérimenter pour vous-même, n'est-ce pas? Aha. De toute façon, ça marche.
Une chose qui marche, enfin, que j'ai constaté, quand on est...
Plus fort.
Il y a une autre chose, enfin, que j'ai constaté qui marche quand on est la personne qui est interne sur... comparé avec... comparable à lui.
Tu pourrais nous donner un exemple?
Oui, enfin, j'ai fait...
D'un exemple d'une phrase.
Une phrase. Je vous ai suggéré celle-ci, puisque vos collègues professeurs m'ont demandé celle-là aussi.
Ah, là, ça présuppose que la personne est externe à ses autres professeurs. Je vous ai suggéré ceci parce que professeur un tel me l'a suggéré. Ça présuppose, me l'a demandé, suggéré, c'est la même chose. Ça présuppose que la personne à qui tu vises est externe vis-à-vis de ces autres personnes-là. On connaît tous les gens que lorsqu'ils disent une chose, on est prêt à le croire, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont une certaine crédibilité.
Ce qui s'est passé, hein?
Mais ça veut dire qu'elle était externe à ces personnes-là. Tu comprends ce que je veux dire là? Elle est peut-être interne à mon égard, mais externe aux autres. Ok, donc il faut toujours savoir qui joue là. Je peux avoir un employé ou un collègue qui décide pour elle-même à chaque fois que je dis quelque chose, mais s'il y a un autre qui lui dit quoi faire, là elle est d'accord, sans même réfléchir, parce que c'est l'autre qui lui dit. C'est comme dans le développement des enfants. Il y a deux phases dans le développement de l'enfant où la plupart des enfants deviennent internes vis-à-vis des parents. Mmh. Alors le plus tôt, c'est à quel âge?
C'est la petite adolescence.
C'est le plus tôt.
C'est l'enfance.
C'est 2 ans en anglais. En anglais, on a même une expression pour ça. On dit the terrible twos. La deuxième année, terrible. Terrible au sens négatif. Oui.
Non.
Où il apprend à dire non. Et parfois, comme on a vu dans cet exemple avec l'annonce publicitaire que je vous ai raconté, dans les lieux les plus publics, l'enfant décide de s'affirmer. Et d'habitude, c'est en disant non. Donc, il devient... interne, c'est-à-dire il veut décider pour lui-même. Et les parents qui sont futés comprennent ça, ils disent « Est-ce que tu veux prendre ton bain avant ou après ton histoire ?» On remet en question le bain, mais c'est l'enfant qui décide s'il y a avant ou après. Bon, ça dure un certain temps, et puis l'enfant continue dans son développement, et voilà, devient la deuxième phase interne. À quel moment?
L'adolescence.
L'adolescence. Mais alors, c'est un peu plus compliqué. Parce que là, l'enfant est interne vis-à-vis de ses parents, et externe vis-à-vis de ses amis. Alors, les parents sont hyper frustrés parce que peu importe ce que je te demande de faire, c'est non, mais alors tu sauterais d'un pont si ta copine te dirait que c'est une bonne idée. Mais c'est un différent contexte. Vous voyez, donc les adolescents sont très, très, très externes vis-à-vis des copains et très internes vis-à-vis des figures d'autorité. Et donc, votre langage, vous avez besoin de refléter ça dans votre langage.
Et le formateur, il a plutôt intérêt à être interne, à y croire à ce qu'il dit, en fait. Parce qu'il doit être un mix.
À mon avis, si tu fais une présentation et tu prends pas en compte ce que les gens pensent, et on connaît tous les présentateurs comme ça, que c'est pas bon non plus. Donc tu peux prendre n'importe quelle activité et dire, ce serait mieux de faire ceci, cela, dans quelle proportion. Si j'ai un travail de réception, j'ai intérêt à être externe. Nous avons au Canada, et je crois en France aussi, une crise dans le service aux clients. Une crise. Parce que là, on a subi depuis les 20 dernières années un grand changement d'attitude des clients. Énorme changement. Avant, au moins au Canada, lorsqu'on disait à un client de faire ceci, il le faisait. Et maintenant, c'est fini. Il y a 20 ans, par exemple, il y a 25 ans, quand tu voulais demander une hypothèque au Canada, tu as dû te mettre à genoux, remplir des montagnes de papier, être un homme blanc, et de donner et de payer n'importe quel taux d'intérêt et de plaidoyer ton cas devant le chef de prêt et d'hypothèque. Et si tu étais chanceux, là, il t'accordait un prêt. Alors, mais ces moments-là, c'est fini maintenant. Parce que maintenant, ce qu'on fait, ou du moins, je ne sais pas si c'est comme ça ici en France, mais au Canada, on va vers une banque, on dit, je cherche une hypothèque, tu es prête à me donner quel taux d'intérêt? Tu parles. Je vais chez quelqu'un d'autre, je dis, qu'est-ce que tu me donnes comme taux d'intérêt et conditions? Mais j'ai un demi-point de moins là-bas, qu'est-ce que tu vas me faire? Vous voyez, c'est un changement d'attitude du client. Avant, les clients étaient externes aux fournisseurs, et maintenant, les clients sont internes. Et donc, tout le langage doit changer. Et ce qui est intéressant, c'est que les grosses sociétés, au lieu de changer le langage, ont décidé de blâmer le client. On parle du customer rage, la rage du client. Comme si c'est le client qui vraiment a le comportement pas acceptable et pas la société. Et donc, combien de fois par téléphone vous n'êtes pas content d'un service ou d'un produit et vous êtes traité de manière vraiment pas convenable? Ça vous arrive souvent en France? Mais au Canada, ça arrive tout le temps. Et le problème, c'est que les personnes dans les centres d'appel, et là, je fais beaucoup de travail maintenant dans les centres d'appel, sont très internes et quand le client n'est pas content, c'est le client qui n'est pas raisonnable. Alors que si on a recruté des gens plus externes, lorsque le client n'est pas content, la personne aussi se sent atteint, suffisamment atteint pour en faire quelque chose, au lieu d'évaluer ce que la personne vient de lui dire. Alors moi maintenant, je passe beaucoup de temps dans les centres d'appel à apprendre aux recruteurs de recruter des bonnes personnes. C'est pas uniquement ce schéma-là, mais il y en a d'autres. Et deuxièmement, à savoir répondre aux demandes des clients. Au lieu de rejeter la demande en disant, mais monsieur, si vous allez me parler sur ce ton-là, en quoi ça aide?
Il faut désamorcer.
Voilà, voilà. Alors, c'est, si on est plutôt externe, et si le client, il souffre de quelque chose, moi aussi je souffre. Donc j'ai un feedback négatif et j'ai une réaction émotionnelle négative aussi qui fait que je serai plus motivée à en faire quelque chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Rosie. Et donc il y a tout un jeu de changement de langage. J'ai deux exemples à vous montrer. Ici je vais le traduire. C'est un comic de Dilbert. Est-ce que vous en avez en français s'ils l'ont traduit? En tout cas, c'est celui sur le service au client. Les résultats de notre sondage sur la satisfaction des clients sont rentrés maintenant. 83% des clients ont craché à leur téléphone jusqu'à la mort de la désidatisation. Et on appelle ce groupe les chanceux. Donc, ça veut dire que les clients sont tellement dissatisfaits qu'ils crachent dans le téléphone jusqu'à la mort. C'est l'exagération américaine. Bon, un autre exemple.
Ça soit à ce point-là. Quand
même. Oui, à ce point-là,
non,
quand même.
Non.
Et ici, c'est une annonce pour une banque canadienne. Et c'est un fait accompli qu'ils donnent. Je traduis. Mettez l'avantage Équité Maison à travailler pour vous. C'est une commande. Deuxièmement, en bas, il dit, faites votre demande dès maintenant. Alors, votre réaction quand vous entendez ça, c'est quoi? C'est un ordre? Je pense pas, moi. Mais ils font des fêtes. Il y a une autre banque canadienne, c'est la plus grande. D'ailleurs, je travaille pour cette banque dans plusieurs départements. Le slogan, c'est, nous sommes devenus la plus grande banque au Canada, un client à la fois. Encore, c'est un fait. Alors, on a un comique canadien qui a quand même joué un peu sur ça. Il dit, nous sommes devenus la banque la plus grande au Canada. Comment on appelle? Comment tu dis en français? Le service charge. C'est des
commissions.
Une commission à la fois. Et c'est plutôt ça. Je ne sais pas si vous avez la même attitude ici en France, mais au Canada, tout le monde se sent prisonnier de leur banque. Parce que c'est la banque qui ordonne et toi, tu es obligé de suivre.
Ça commence à changer.
Ouais. Mais nous avons maintenant la concurrence venant de l'extérieur. ING, qui est une banque hollandaise, est venue. Et ils attaquent exactement sur ça. Ils disent, vous en avez marre que votre banque vous prive d'intérêt, vous demandez des cotisations ou des commissions irraisonnables, sauvez votre argent. et ils font une furie, et parce que là, ils garantissent d'avoir les taux d'intérêt les plus forts. Et tac, à prendre le journal, je dis, mais ils ont les taux d'intérêt les plus forts pour les économies. Ils ont les taux d'hypothèque les plus bas. Bon, ils font furie au Canada.
C'est un petit peu les slogans, j'arrive pas à m'en souvenir complètement, mais le dernier slogan d'EDF, je sais pas si vous l'avez vu, où en gros, le message c'est on fait attention à la manière dont on produit l'énergie, parce que l'énergie, c'est vous.
L'énergie, c'est vous.
C'est vous l'énergie de demain.
Notre énergie, c'est vous, je crois que c'est ça le texte.
Alors ça vous frappe comment?
Moi je trouve que c'est très 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 habile de ça.
Quand on connaît EDF,
quand on connaît.
Je suis en train de vous regarder, il y en a dit c'est habile, et je vois les autres disant bof, 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 bof.
C'est trop beau. Non, mais c'est de 12%.
Ben oui.
C'est quand même.
Il y a une histoire derrière.
Oui. Il nous associe, enfin quand on sait que, je ne voudrais pas me lancer dans de grandes démonstrations, mais quand on sait qu'à l'heure actuelle l'énergie est principalement l'énergie nucléaire, parler aux gens pour défendre sa position et en disant l'énergie c'est vous,
c'est intelligent.
C'est intelligent, ça peut marcher.
Mais il paraît pas dans cette salle-ci, parce que bon, quand j'ai vu les têtes autour de la table disant bof, bof, ça peut marcher.
On n'est peut-être pas un échantillon représentatif de la population française.
Mais alors justement, j'aimerais reprendre ça. La plupart des grandes entreprises croient que les gens sont idiots. Vous avez remarqué ça? Et par exemple, on a eu un grand campagne de la part des banques au Canada une année où ils voulaient nous expliquer pourquoi il y avait des commissions. Hello, on n'est pas idiots, on sait que vous voulez avoir des profits, bon, alors ils inventent des commissions ici et là pour nous tirer encore plus d'argent. Alors on n'est pas, c'est ma bon opinion, c'est mon opinion, j'ai pas encore fait des recherches dessus, mais une chose que j'ai remarqué, c'est que les grandes sociétés payent des fortunes pour faire des sondages auprès des clients au lieu d'écouter les clients, parce qu'ils posent des questions sur les choses qu'ils veulent savoir, et ils ignorent le seul endroit où l'information existe. Et ça, c'est dans toutes les gens qui ont contact direct avec les clients. Et tu peux rentrer dans la banque ou à l'EDF et dire, j'ai une suggestion, ou je ne suis pas content de ceci, est-ce que vous pouvez en faire quelque chose? Je ne sais jamais la personne avec qui vous parlez, jamais. Et on ne prend très peu d'efforts de recueillir les informations venant du front line, comme on dit, de la ligne directe. Et ce serait beaucoup moins cher, au lieu de payer des sociétés pour faire des sondages énormes, mais d'avoir un système où on ramasse les informations venant du contact direct. Parce que le client a quelque chose lorsque... Vous ne faites même pas de sondage. Si? Si?
À votre question,
ouais.
C'est si on interroge le frontline, comme tu dis, on peut tout avoir dans un sondage et un questionnaire qui est tout à fait ciblé, et en fait, on suggère les réponses.
Voilà.
De toute façon, on s'est posé en plus, en créant le questionnaire, on suggère un certain nombre de réponses, et suivant l'intervieweur, s'il est plus ou moins bon, plus ou moins motivé dans son boulot qui est assez mal payé, on suggère les réponses.
Voilà.
C'est les questions trop investies. Enfin, il y a l'investissement.
Les questions maintenantes. Voilà.
Il y a la tonalité, la façon de poser la question, sur la façon.
Et à mon avis, ça coûte une fortune de faire les sondages, alors que l'information est déjà là tous les jours, toutes les nuits. C'est d'avoir un moyen de capter les commentaires directement de la part des clients, les envoyer à quelqu'un qui sait faire une analyse statistique pour savoir ce qui se passe. C'est pas de la science très compliquée, en fait. Mais tu vois, on a investi beaucoup dans les sondages et on a investi dans les résultats.
Je pense que ça coûte moins cher de faire un sondage.
Pas la solution que j'ai recommandée, non. Ça, c'est très cher.
Un exemple, notre maison mère qui est hollandaise a envoyé à peu près une cinquantaine d'enquêtes, de questionnaires à nos clients français. Il y a à peu près 8 clients français qui ont répondu sur 50. Et les autres, ils ont mis à la poubelle.
Mais bien sûr. Mais c'est mon cas aussi, quand je suis cliente et qu'un fournisseur a envie de me poser des questions, j'ai jamais quelque chose de très intéressant à lui dire. Mais quand je suis au guichet et que ça marche pas, là j'ai des choses à lui dire.
Bien sûr. Et là, il faut dire.
Ben je le dis, tu peux le dire autant que tu veux à la personne derrière le guichet. Ben oui, personne ne l'écoute non plus. Ben oui, voilà. C'est ça, donc c'est justement le point, c'est qu'il y a ce jeu entre l'interne et l'externe qui est très 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 important dans tout ce qui est rapport avec des clients, etc. Parce que le client devient de plus en plus interne, il veut de moins en moins qu'on lui dise quoi faire. Et comment faire, et avec qui faire. Et donc, on peut dire que le client est difficile, mais en fait, c'est juste un changement de schéma. Et si on changeait le langage avec lequel on communique avec le client, on aurait tout un autre type de résultat avec le client. Mettons par exemple, au lieu de dire « vous devez faire ceci, cela », on disait à nos clients « suivant votre cas et les informations que vous venez me dire, voici ce que je vous propose. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Vous voyez, c'est une autre démarche. Même dans les équipes, mettons vous travaillez dans une équipe de gens sceptiques, ça peut arriver, et que vous avez une proposition, mais souvent les gens disent « je sais ce qu'on devrait faire ». Alors on cause toute une dispute parce qu'on ne veut pas qu'on se dire « devrait » alors que c'est peut-être juste une proposition. J'ai une suggestion à vous proposer et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Donc ça, c'est pour ouvrir un peu l'espace mental, c'est dans la phrase. Alors, je ne crois pas que vous devriez me croire comme ça, parce que je pense que c'est le genre de choses qu'il faut expérimenter pour savoir vraiment si ça marche ou ça marche pas. Bon, je peux vous faire part de mon expérience, mais ça ne vaut rien parce que je ne vis pas vos vies.
Et puis vous vivez au Canada.
Et en plus, je vis dans un pays étranger et loin.
Oui, mais là, elle est en train de faire la démonstration.
Of course, mais bien sûr. Alors, je regarde là. Je propose qu'on prend 15 minutes et après, on va manier ça d'une autre manière. Merci.
C'est précisément l'objectif. Enfin, en coaching, c'est ce qu'on dit. Quoi. C'est la personne qui détient ses propres solutions.
Bien sûr, c'est ça. J'adore ça quand la technologie marche.
Ah oui,
ça j'adore ça. Quand tu pousses un bouton et la chose fait ce qu'elle est censée de faire.
Voilà, quand les trous sont en face des trous.
Voilà, quand les trous sont en face des trous. Merci Christine. Ha. Et que c'est moi qui l'a fait en plus. Vous savez, j'ai gardé mon étagère IKEA dans mon bureau, dans l'état actuel il était. Savez-vous pourquoi? Pour me rappeler que quand j'ai de l'évidence qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, je peux quand même, de temps en temps, me remettre en question et de savoir quelle était ma partie là-dedans. Quand même, c'est utile, n'est-ce pas? Alors, c'est là, dans mon bureau, c'est laid, et c'est un rappel. Vous voyez, il n'y a pas qu'il y a un bon schéma ou un mauvais schéma à avoir. Vous voyez, c'est très utile d'avoir un schéma de Heidwanger, c'est aussi très utile d'avoir un schéma à d'autres moments en allant vers. Même chose interne-externe. Quand tu as un schéma externe, tu es beaucoup plus flexible. Il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est toi qui t'adaptes.
Tu es plus influençable aussi.
Et tu es plus influençable, c'est ça. C'est ça, donc il y a des bons et des mauvais. Donc c'est à toi de décider. Attention, démonstration. T'es la seule personne en mesure de décider ce qui va bien et ce qui va pas bien. C'est pas à moi de vous dire, hein. Mais j'ai quand même quelques informations utiles. Je crois. Mais c'est à vous de décider. N'est-ce pas? Ok. Je parlais du test du macho parce que ça arrive de temps en temps que vous avez envie d'influencer quelqu'un qui rejette toutes vos idées. Ça vous arrive, hein? Ou vous arrivez et vous êtes très enthousiasmé à propos de quelque chose. Et vous avez remarqué que plus vous êtes enthousiaste, plus les autres sont sceptiques. Comment c'est? T'as pas remarqué?
Je comprends mieux.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'enthousiasme, par exemple? Quand vous êtes enthousiaste pour quelque chose, à un niveau subconscient, c'est comme si vous décidez à la place de l'autre. Et il veut pas. Mettons par exemple, ton ami vient te dire, si tu vas voir un film cette année, il faut que tu vois celui-là. Alors tu vas voir le film et c'est jamais aussi bon que ça, voyons. Pourquoi? C'est parce qu'il a décidé que ce sera bon pour toi. Et souvent on rejette ça. Mais on a parfois à faire face à des gens qui ont une attitude que moi j'appelle macho. Ça n'a rien à voir si c'est un homme ou si c'est une femme. Tout le monde devient macho à des moments bien précis. Par exemple, quand l'un de vos parents vous a dit comment il faudrait que vous meniez votre vie, est-ce que vous avez ouvert le cervelle en disant « Tiens, maman, c'est une bonne idée. Je ne crois pas. »
On a fait le contraire.
Plutôt le contraire, exact. Alors, qu'est-ce que c'est quand quelqu'un devient macho? qu'est-ce qu'il fait quand il devient macho? Déjà, il sait tout ce qu'il y a à savoir, donc ce n'est pas la peine de lui dire j'ai une nouvelle idée, parce qu'il le sait déjà, n'est-ce pas? Quelqu'un devient macho quand il n'a pas de problème, parce que tout chez lui est parfait. Quelqu'un est macho, et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de tout écrire ça, parce que si vous cochez « Envoyez-moi l'article sur le test du macho », je vais vous envoyer ça par email.
Et en français?
En français. C'est grâce à Gilles qui l'a traduit, alors voilà. Et d'ailleurs, c'est dans le livre, le test du macho est dans le livre « Le plein pouvoir des mots » et dans « Cultiver votre charisme », c'est là-dedans aussi. Troisièmement, quelqu'un est macho quand s'il y a des problèmes, ils proviennent bien sûr de quelqu'un d'autre, pas de lui parce que lui est parfait, voyons. Et quatrièmement, il est le meilleur, le plus fort, le plus beau, il a plus de connaissances de tout le monde. Et c'est tout. Alors comment tu fais pour ouvrir un peu d'espace mental lorsque quelqu'un est en train de faire fonctionner ça, justement? De toute façon, je vais vous donner des suggestions, mais vous allez voir si ça marche ou pas pour vous autres. Et de toute façon, ce n'est pas des idées nouvelles, parce que vous avez déjà fait tout ce que je vais vous dire. Tout ce que j'ai fait, c'est j'ai organisé ça dans un genre de système, d'accord? Alors, le test du macho est une activité de rédaction. Mettons que vous allez mettre par écrit ce que vous allez proposer ou vous préparez une présentation. Après, vous regardez ce que vous allez dire et là, vous faites appliquer le test du macho. Si ça passe, ça veut dire que ça va marcher. Si ça ne réussit pas, ça veut dire qu'il faut l'ajuster. Donc, je vous présente le test du macho. Alors, vous écrivez ce que vous avez écrit et après, vous vous posez la question. Est-ce que vous avez dit ou sous-entendu de manière implicite les choses suivantes? Numéro 1, il y a quelque chose que votre auditoire ne sait pas déjà. Donc, mettons par exemple, vous allez présenter des nouvelles idées. Ça présuppose que l'auditoire n'a pas déjà pensé à ça. Ça ne réussit pas, le test du macho. Parce qu'on sait qu'il va le rejeter en disant « mais c'est pas nouveau ça !» Et vous n'aurez même pas le temps de discuter l'idée parce qu'on est en train de rejeter ça sous prétexte que c'est pas nouveau. Ça s'est déjà arrivé?
Oui.
Deuxièmement, si vous lui dites quoi faire, tout ce que vous dites sera rejeté parce que c'est un ordre et pas une suggestion. Normal. Troisièmement, si vous allez présupposer qu'il a un problème, vous avez les solutions. Tous les gens qui sont consultants, formateurs en entreprise, la plupart du temps, on n'a pas de travail s'il n'y a pas un problème. Alors, comment on fait si on va voir quelqu'un pour vendre nos salades et on veut lui faire admettre qu'il a un problème alors que lui lutte pour ne pas avoir de problème? C'est un problème. J'ai eu cet exercice dans la grande banque où j'étais. J'ai travaillé dans beaucoup de départements différents. Tout le monde me disait, va voir ce vice-président, il a besoin de toi parce que lui a des problèmes. Et ce que tu fais, c'est parfait pour lui. Alors, naïf comme je suis, je débarque chez lui, j'y prends rendez-vous avec lui, je débarque dans son bureau, j'établis ma crédibilité, j'établis le rapport, on parle un peu. Et là, je sors de ma bouche la chose qu'il ne fallait pas dire. J'ai dit... Et oui, et pouvez-vous me raconter un petit peu sur ce qui se passe avec des problèmes du service aux clients que vous avez dans votre département? En croyant que puisque tout le monde est au courant de ces problèmes, que lui aussi sera au courant. Mais non, il dit, qu'est-ce qui vous a dit qu'on a eu des problèmes? Mais ça va marcher assez bien en ce moment, pourquoi vous dites ça? Alors, l'entretien était terminé, hein? J'ai cru que tout le monde était au courant, alors lui sera au courant. Mais il paraît que non, ça marche pas comme ça. Donc, c'est ma question qui n'a pas réussi le test du macho. On entend les journalistes faire ça tout le temps. Ils vont demander à un personnage public, est-ce que les événements récents vous ont surpris? Alors, qui va admettre que quelque chose l'a surpris sur la radio publique ou la télévision nationale? C'est la question qui ne réussit pas le test du macho. Vaut-il pas mieux à poser la question « Quelle est votre réaction aux événements récents ?» au lieu de « Est-ce que vous étiez surpris ?» Vous voyez, moi, je n'admettrai jamais à la télévision que j'étais surprise de quelque chose. Je n'admettrai jamais ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'il avait à admettre à moi, une étrangère, qu'il avait des problèmes? Ce n'était pas dans son intérêt de le faire. Alors que j'ai présupposé que si j'ai pas de problème, j'aurais pas de travail. Et que donc, il a fallu que je le fasse admettre qu'il a des problèmes. Ça n'a pas marché. Quatrième, est-ce que on présuppose d'une façon ou d'une autre que l'autre n'est pas parfait? Ça ne passerait pas. J'aimerais vous aider avec vos défis. Ça ne passe pas. Ça ne réussit pas. Mais ça présuppose. Si la personne est macho, voilà, ça ne passera pas. Moi, je préfère présumer que tout le monde est macho, comme ça je ne fais pas d'erreur. Vous voyez, c'est une stratégie en éloignement. Mm-hmm. je préviens des problèmes, parce que après que tu as eu les mêmes problèmes 3-4 millions de fois, tu ne veux plus en avoir, n'est-ce pas? Alors c'est pour ça que j'ai développé le test du macho. Et cinquième, est-ce que vous avez dit ou sous-entendu que vous êtes meilleur que lui? Vous voyez, dans la concorde de qui pisse le plus loin, comment dit Renaud, je cite Renaud. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Renaud qui l'a dit dans une des chansons, n'est-ce pas? Si on joue à ce jeu-là, ça passe pas le test du macho, entre nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la place? Ça vous intéresse de savoir ce qu'on fait à la place? Ok. Tout ça, je vais vous envoyer ça, ne vous en faites pas, et c'est dans le livre en plus. Alors, ceux qui ont besoin de l'écrire, je vais vous l'envoyer, vous pouvez l'écrire encore une fois, d'accord?
Non, c'est pas la peine d'écrire.
Non, parce que c'est dans le livre, je pourrais vous envoyer ça si vous cochez le truc. Alors ça, c'est le test échoué. Comment réussir le test du macho? Et c'est pas la première fois que vous allez entendre ça, parce que vous avez tous fait exactement ce que je vais vous dire. C'est pas nouveau. Comme vous savez probablement, ensuite vous dites la chose que la personne ne sait pas.
Puisqu'elle le sait.
Ben oui, ça prend pas une génie pour inventer tout ça, hein, franchement. Deuxièmement, au lieu de lui donner des ordres, lui dire comment faire, moi je propose que vous utilisez le langage de suggestion. Mais vous décidez. Donc, c'est-à-dire le langage d'influence interne, où on propose et on invite l'autre à juger. Du moins, c'est ce que je crois, moi. Ouais, oui, tout à fait. Au lieu de lui demander quels sont ses problèmes et de proposer moi en tant que solution, on présuppose qu'elle a déjà tout résolu. Quand, par exemple, j'aurais pu dire à ce vice-président, j'ai entendu dire que dans votre secteur, et là je fais un peu de recherche, qu'il y a ça et ça et ça comme question difficile à répondre. Comment est-ce que vous avez résolu tout ça? Vous avez une approche comme ça, la personne ne se sent pas la nécessité de devenir macho. Alors j'ai fait ça avec le vice-président d'opération dans une grande chaîne d'hôtels. J'ai dit, j'ai entendu dire qu'il y a ça et ça et ça comme problème dans le service aux clients pour les hôtels. Comment est-ce que vous avez résolu tout ça? Et là, le gars, il m'a répondu, mais on a réussi problème numéro un. On est en train de réussir au problème numéro 3, mais j'aimerais te parler de l'autre problème, parce que là, on n'a pas encore de solution. Donc, il n'a pas besoin de se mettre en macho, parce qu'on a présumé qu'il sait déjà tout, qu'il a résolu tous les problèmes. Numéro 4, au lieu de présumer que la personne n'est pas parfaite, on met en honneur son expérience et ses connaissances. Au lieu que je vous dise, par exemple, nous allons faire une approche un peu nouvelle à la communication, donc j'aimerais que vous laissiez tout ce que vous savez à la porte pour avoir un esprit clair pour qu'on travaille. Au lieu de ça, moi je préfère que vous allez juger tout ce qu'on fait contre votre expérience pour savoir si ça marche ou ça marche pas. C'est-à-dire j'aimerais mieux mettre en valeur ce que vous savez déjà et que je vous invite à juger. Et d'ailleurs, c'est un peu pervers de la nature humaine. Quand vous dites quelque chose à quelqu'un, vous dites, selon les recherches, nous avons trouvé que, tout le monde veut savoir quelles recherches et comment le sais-tu. Si tu demandes à des gens, si tu dis aux gens, par exemple, comme je fais, alerte, c'est mon opinion, soutenue par aucune recherche, là, les gens sont curieux, veulent savoir ce que tu penses. Donc, si tu demandes qu'ils jugent, ils ne jugent pas. Si tu leur dis, il n'y a pas à juger, c'est les faits, là, ils veulent juger. C'est la nature humaine, un peu pervers, je ne sais pas. C'est mon opinion. Soutenue par aucune recherche, bien sûr. C'est ce que je pense.
C'est la responsabilité à l'injonction, en fait.
Je ne sais pas. C'est mon expérience. Et numéro 5, au lieu de jouer au celui qui pisse plus loin, si je peux dire, division de rôle. C'est-à-dire que moi, je vais vous présenter ce que je sais, vous allez pouvoir savoir si ça marche dans votre domaine. Mon rôle, votre rôle, d'égalité. Vous voyez, ça marche beaucoup mieux. Alors, vous savez ce que j'en ai fait avec le test de macho? À chaque fois que j'écris ou je prépare une présentation, je le fais passer par le test du macho. Parce que comme ça, je serai sûre qu'on ne va pas avoir des problèmes de rejet par la forme et non pas le contenu. J'ai écrit un article dans un de nos journaux nationaux que je vous ai donné le titre ce matin. C'était 10 tuyaux pour survivre le système de santé. Mm-hmm. Mais le titre, il passe le test du macho, parce que les tuyaux, est-ce que c'est des ordres?
Non.
C'est quoi? C'est des conseils, des suggestions. Alors ça a été repris par Beaucoup de médecins m'ont appelé pour savoir s'ils pouvaient avoir la permission à donner ça à leurs patients. Ça a été réimprimé dans plusieurs endroits différents aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. Parce que, je crois, parce que le titre passait le test du macho, c'est des tuyaux, pas des ordres. Imaginez-vous la réaction si j'avais, si le titre était 10 règles pour survivre le système de santé, directement dans la poubelle, n'est-ce pas? Donc si ça vous aide, ça me fait beaucoup plaisir. Et d'ailleurs, si vous vous servez du test du macho, j'aimerais que vous m'envoyiez un courriel pour me dire comment ça s'est passé. Parce que je veux ramasser plus d'évidence. Non seulement de mon expérience personnelle, mais de l'expérience de vous aussi.
Par exemple, si on a, enfin, par rapport à ce que j'envisage de faire, si c'est un sujet qui a besoin quand même d'une bibliographie ou de référence, est-ce que ça peut passer quand même malgré tout? Ou bien il faut toujours dire par rapport à mon expérience ou...
Ah non, il y a une manière de faire ça. Ok, voilà. Je te donne un autre exemple. Mettons, je veux vous faire part de l'expérience en recherche. Je dis, j'aimerais vous donner les faits qui ont été recherchés. À vous de décider si vous êtes d'accord.
Ouais. Ouais.
Mm-hmm. Voilà, selon telle référence, vous décidez si vous êtes d'accord. Ouais. Et même les gens les plus sceptiques, mais ne me croyez pas, il faut le tester pour vous-même, bien sûr, sont à ce moment-là d'accord pour au moins entretenir l'idée. Et là, attention au langage non-verbal. Si vous êtes trop accroupie, plaidoyante, un style un peu « s'il vous plaît, écoutez-moi » avec un langage comme ça, ça passe pas. Tu te mets debout, une voix posée, confiante, tout en utilisant le langage de suggestion et ça passe. D'accord? Ça, c'est très important parce que si tu n'as pas l'air que tu te crois toi-même, ça ne passera pas à l'autre non plus. Moi, je crois ce que je dis. Quand je vous invite à juger pour vous-même, ce n'est pas parce que je le mets en doute moi-même. C'est ce que je crois que vous avez le droit de décider, si ça vous convient ou pas. C'est tout. Questions, commentaires sur ça? Tu peux parler plus fort, s'il te plaît?
Parce qu'on tombe sur des gens comme ça, des machos, que ce soit des femmes ou des hommes. Et c'est vrai que, bon, donc forcément, je pratique dans la communication ce que vous êtes en train de dénoncer. Je le fais naturellement parce que j'ai un objectif, c'est qu'il ait confiance en moi et qu'il soit tranquille donc, et qu'il n'y ait pas de rapport de force entre nous.
Voilà.
Mais ce que j'ai pu constater, c'est que, après cela, j'ai la sensation d'avoir manipulé l'entretien parce que...
Qu'est-ce que ça veut dire pour toi manipuler? Qu'est-ce que ça tend?
Comme si de mon côté, en fait, j'ai un peu repéré le personnage comme je l'ai repéré, je vais utiliser tout ça en fait.
Donc, en fin de compte, tu n'as pas la sensation au fond de toi que tu n'as pas le droit d'utiliser ce que tu as pu percevoir chez l'autre pour mieux communiquer?
Si. C'est-à-dire que, oui, en fait, ce que je crains...
Mais c'est une question intéressante qu'on pose, là, sur l'éthique de la communication.
Ce que je crains toujours, c'est qu'effectivement, il constate que j'ai un peu joué avec lui, en fait. Hein. Enfin, j'ai pas joué, mais ce que je veux dire,
c'est qu'il est toujours libre, l'autre.
Bon, c'est
soyons clairs sur qu'est-ce que... Ben oui, mais soyons clairs sur la définition de la manipulation par rapport à l'influence. Parce que pour moi, il est quand même important de faire une distinction. Et c'est non pas par rapport aux moyens, c'est par rapport aux objectifs. Si tu décides que tu as un objectif quelconque, et ça va à l'encontre des besoins, des objectifs de l'autre... Forcément, tu finis par manipuler si tu insistes à avoir ce que tu veux. Si tu as fait ce qu'il faut pour que ça soit dans l'intérêt des deux parties, et que toi, tu as compris comment il fallait se tenir à propos de la personne, tu es dans l'éthique et dans la morale, me semble-t-il, selon ce que je pense moi. Et d'ailleurs, les autres sont très futés. Combien d'entre vous, vous êtes au courant tôt ou tard qu'on vous a manipulé? On a quand même un certain radar. On n'aurait peut-être pas su au moment même, mais après on se met à penser, à se dire, bon, il m'a eu celui-là. Et que ça ne crée pas la confiance. Donc le seul test empirique, rigoureux et scientifique, c'est qu'est-ce que vous avez de meilleures relations de confiance après ou pas. Parce que si vous avez manipulé, l'autre, tôt ou tard, il commence à se rendre compte. Et vous avez des rapports beaucoup plus difficiles avec lui parce que là, il a une certaine méfiance à ton égard. Donc c'est la seule preuve que tu as fait quelque chose dans l'éthique, c'est que vraiment si les relations s'améliorent, il y a plus de confiance ou est-ce qu'il y a moins de confiance, à mon avis. Et d'ailleurs, quand on parle de ma théorie de communication ou d'influencer, c'est qu'on va aller chercher les personnes là où elles sont pour les amener quelque part. Parce que si on prend l'autobus, il faut que l'autobus s'arrête où la personne elle est, sinon elle ne peut pas monter dans l'autobus. Et si on a besoin de faire, par exemple, le test du macho pour être sûr qu'on peut au moins ouvrir un peu d'espace mental chez l'autre, ça l'aide à prendre en considération nos idées. Mais s'il sent que tu le fais avec une air de supériorité et que tu te promènes comme si tu as réussi un coup, là, il va comprendre autre chose, c'est sûr. Et ça ne va pas durer longtemps. C'est ça le test. Est-ce que les relations vont de mieux en mieux ou dans l'autre sens? Non?
Non.
Tu réfléchis? Tu tiens la tête avec la main parce que...
Okay. Non, mais je pensais que ça fait... ça oblige quand même un travail, un regard vachement important à la fois avant et après le résultat.
Qu'est-ce que tu penses en termes de travail intérieur, par exemple?
Ça veut dire maîtriser son emportement ou des choses comme ça, ne pas aller trop vite, rester à la vitesse de l'autre, par exemple, quand on explique une stratégie, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que si on prend trop d'avance dans son raisonnement, on le largue ici...
Et ça doit être vachement important dans ton travail parce que tu vas accompagner quelqu'un, ça veut dire qu'il faut que tu ailles à sa vitesse. Moi, il y a des fois où je suis impatiente et je me rends compte que j'ai largué quelqu'un. Et donc, je dois faire mon travail pour que je me fasse ce que j'ai besoin de faire pour que je puisse aller rencontrer la personne là où elle est, dans sa vitesse, dans sa façon de penser, etc. Absolument.
Même si tu calcules à un moment donné que tu veux amener cette personne à un endroit... Comme tu disais, après, tu peux pas fanfaronner, entre guillemets, quand tu y es arrivé, sinon tu casses tout le travail que tu peux faire après.
Ah oui.
Ça qui est dommage. Donc c'est pour ça qu'il faut être vachement...
Est-ce que je pourrais le dire autrement? C'est que si tu te rends compte que tu as fait une erreur, tu dois supprimer l'erreur, parce que tu n'es pas parfait non plus. Alors si j'ai fait quelque chose pour t'offenser, je peux dire, écoute, c'est pas ça que je voulais dire. Voilà. Donc c'est pas la fin du monde. La plupart des gens vont te pardonner pourvu que tu fais au moins une excuse et tu vas de l'avant en disant écoute, c'est pas ça que je voulais que tu comprennes et tu reprends. Voilà, donc c'est pas la fin du monde. Donc la raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est que j'ai eu l'impression après que oh my god, c'était affreux ce qui s'est passé et donc on peut pas récupérer. À mon avis, dès que tu t'excuses et tu dis c'est pas ça que je voulais dire, c'est la meilleure réponse pour les faux pas. Tu reprends facilement.
Ben, sauf si la personne s'est engagée dans une direction et, je sais pas, contractuellement ou autre. Là,
À ce moment-là, ça prend plus de travail pour remettre sur les rails, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit avoir une crise catastrophique de la vie. Hein. Alors, on avait demandé aussi la formule d'énoncer les mauvaises nouvelles. Ça vous intéresse toujours? Ça, comment annoncer les mauvaises nouvelles et que les gens soient quand même dans un état raisonnable, émotionnel. Ça, c'est basé sur le travail de deux formateurs PNL, un américain puis un finlandais. Tim Murphy est professeur d'anglais dans une université au Japon et Veli-Matti Toivonen est enseignant de PNL en Finlande. Ils ont fait un travail sur and but, et mais, qui est très intéressant. Mais on va faire l'expérience. Je vais dire deux choses. Et vous allez me dire lequel est le plus grand en termes d'image ou en termes d'effet, d'accord, chez vous. Je vous dis deux choses, vous me dites quelle est la plus grande. Nous avons déjà fait beaucoup de travail, mais il nous en faut faire beaucoup encore. Il nous en reste beaucoup à faire. Nous avons déjà fait beaucoup de travail, mais il nous en reste beaucoup à faire.
Pas suffisant.
Quelle est le plus grande? Entre ces deux phrases, quel est le plus grand, le plus puissant chez vous?
Nous avons fait du travail. Ah oui.
Bon, je reprends. Ok, je reprends. Ok, ça y est, vous êtes au clair sur le... Ok. Bon, deux phrases, vous me dites quel est le plus puissant, le plus grand, le plus... qui reste le plus d'impact, ok? Nous avons déjà fait beaucoup de travail, mais il nous reste beaucoup de travail à faire.
La deuxième, c'est pas suffisant ce qu'on a fait, il faut faire plus.
C'est ça, dans la plupart des cas, s'il y a deux phrases entre le mot « mais », celui qui vient après laisse la plus grande impression. Alors, c'est comme ça. Donc, une petite boîte, mes grandes boîtes. Ok? Autre expérience. Je vais dire deux phrases et vous me dites lequel est le plus grand. Le plus grand dans votre esprit. Même question. Il nous reste beaucoup de travail à faire et on a fait quand même pas mal de, jusqu'à maintenant.
C'est égal, égal.
Égal, égal. Il paraît que pour la plupart de la population, si tu mets le mot « et », ce qui vient avant et ce qui vient après, c'est à peu près la même taille. C'est très utile pour énoncer des mauvaises nouvelles. Très, très, très utile. Alors, voici la formule. On commence avec le « bad news », la mauvaise nouvelle, en premier. Jamais à la fin, n'est-ce pas? Mauvaise nouvelle au début. Ensuite, on met « mais ». Ensuite, on trouve une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu dis là? Ah oui, bien sûr. Et si tu as des mauvaises nouvelles à présenter, tu as intérêt à préparer à l'avance. Vous êtes d'accord?
Ah oui.
Ok. Donc, on commence avec « mauvaise nouvelle ». On met le mot « mais ». Après, on met « bonne nouvelle » et et bonne nouvelle, et parce que la plupart de la planète fonctionne sur trois exemples, on met une dernière. Et bonne nouvelle. Donc, formule, c'est mauvaise nouvelle, mais bonne nouvelle, et bonne nouvelle, et bonne nouvelle. D'accord? Est-ce que je pourrais vous donner un exemple? Donc, moi, je vous avais dit que je sors mon bulletin irrégulier de temps en temps. Et j'ai fait un article sur comment il faut réagir avec des faux pas. Qu'est-ce qu'il faut en faire avec des faux pas? Et je reçois un courriel d'un avocat aux États-Unis qui a dit « Charlie, j'étais très impressionnée de ton article et j'aimerais le remanier un peu et l'envoyer sous mon nom à mes clients. » Et c'est un avocat qui m'envoie ça. Donc, il attache l'article, il a changé deux, trois petits trucs, et il a décidé qu'il voulait l'envoyer. Au moins, il m'a le demandé à l'avance. Alors, je me suis arrangée pour le téléphoner et j'ai dit « Écoute, George, il n'y a aucun moyen que je te laisserai signer ton nom à mon travail intellectuel. Mais je suis ravie que tu aies aimé mon article et je voudrais que tu puisses l'envoyer à tes clients et je te donne ma permission de l'envoyer comme tel avec mon nom dessus. » Il était ravi. Mais j'ai commencé avec les mauvaises nouvelles et j'étais directe et claire. Il n'y a pas de moyen, je te laisserai mettre ton nom sur mes idées. Vous voyez, j'étais quand même directe, mais ça passe. Hein? Qu'est-ce que votre impression de ce que j'ai dit, c'est comment? Alors, on ne met jamais les mauvaises nouvelles à la fin, parce que tout ce qui arrive à la fin, c'est ça qui reste. Et en vous servant du « mais » de manière stratégique, on minimise l'impact, même si tu es très directe, et on garde la personne dans un état positif parce qu'on a mis trois choses positives à la fin. Et là, on va me dire, mais comment est-ce qu'on peut trouver des choses positives? Alors, utilisez votre imagination, quand même.
On peut même lier la mauvaise nouvelle à un contrepoids positif.
Par exemple. Et comme ça, tu passes l'information. Au moment donné, j'ai eu un dentiste qui a lu mon livre. Il dit, j'ai l'impression que j'annonce pas, je parle pas bien à mes patients. J'ai dit, mais... Dans quel sens? Il dit, je dois les avertir des problèmes éventuels, mais j'ai l'impression que je leur donne presque un ordre d'avoir ces problèmes-là, de produire ces effets secondaires. Alors j'ai dit, dis-moi ce que tu leur dis. Alors il dit, vous savez, je viens de vous arracher une dent et parfois vous pouvez avoir une infection et si vous avez une infection, je vous recommande de faire ceci, cela. J'ai dit oui, effectivement, c'est un ordre de produire une infection. Alors, ça marcherait ou ça marcherait pas, mais c'est quand même un peu gênant. Alors, il dit, mais comment je fais alors? J'ai dit, mais le patient est en face de vous, vous tournez sur le côté et en gesticulant sur le côté, vous dites, il y a dans les cas assez rares des gens qui ont eu, temps passé, une infection. Et ce que je leur ai dit de faire, c'est ceci, cela. C'est très rare, je pense que vous allez avoir une bonne santé, une bonne réaction du travail, ce qu'on a fait. Bon, voilà. Mais on a quand même informé la personne de ce qui peut aller mal, parce que c'est légalement, c'est ce que tu dois faire, c'est prévenir de quelques risques. Et vous tournez, c'est important pour que la personne ne l'apprend pas pour elle-même. Moi, j'ai subi plusieurs opérations chirurgicales. Je me souviens, le dernier, il y a quelques années, j'ai eu une hernie qui a été réparée. Et c'est toujours le même chirurgien. J'ai eu des ennuis de cancer, plusieurs autres choses. Alors, mon frère m'a accompagnée. Et là, il dit au chirurgien, Dan, est-ce que c'est une grande opération qu'elle va subir? Alors, Dan, il a utilisé une métaphore visuelle. Il dit, mais par rapport à ce qu'elle a déjà vécu, c'était comme si elle se faisait frapper par un train. Cette fois-ci, c'est qu'un autobus. Alors là, moi, j'ai passé 3 semaines après, parce que j'écoutais là, mine de rien. Ça s'est rentré. Et pendant des semaines après, j'étais mais crevée. Mais alors, crevée. Et c'est comme si je m'étais frappée par un autobus. Alors, c'est gros quand même, un autobus. Moi, je suis pas grande. Alors, vous voyez...
Il aurait pu dire un moustique.
Une moustique ou bien... Alors, je suis rentrée, je voulais lui démontrer ce qu'il m'a fait. Alors, je rentre, je dis, bonjour Dan, j'aimerais te parler. Donc, je lui ai fait imaginer qu'il était rendu complètement chaud. J'ai dit, c'est comme si tu as perdu tous tes cheveux d'un coup comme ça et tu n'as pas un poil sur la tête. Là, il m'a fait un look bizarre comme ça parce qu'il voyait. Et donc, il a compris que j'ai pu créer toute une réalité au fond de, en lui. Et j'ai dit, quand tu me dis alors que c'est comme si tu seras frappé par un autobus, qu'est-ce que ça m'a fait? Alors il dit, mais qu'est-ce que je dois dire alors? J'ai dit, ben, tu lui dis, par rapport à ce que tu as fait avant, c'est facile. Tu vas te fatiguer quelques jours, mais tu vas te remettre parce que tu sais que tu guéris bien et de toute façon, tu as passé le pire bien avant ça. Et maintenant, ce serait beaucoup plus facile. Moi, j'aurais mieux aimé entendre ça.
En plus, c'est pas éloigné de la vérité non plus, donc c'est gagnant.
Quoi. C'est gagnant, voyons. Donc, mettez toujours, à mon avis, les bonnes nouvelles à la fin. S'il y a des mauvaises nouvelles à passer...
C'est quand même une bonne nouvelle.
Ah ouais, mais attends, tu...
Ouais, ami, mais j'étais quand même laissée avec l'autobus. J'aurais aimé que ça soit... un colibri, par exemple, qui m'est rentré dedans. Voyons. C'était à lui, mais c'était pas aidant pour moi, tu voyais. Et vous voyez, quand c'est visuel, c'est que ça colle, hein. Comme je vous avais dit ce matin, ça, dès que c'est visuel, ça reste. C'est puissant.
Implicitement, on en meurt, hein, d'un autobus qui vous...
Je ne sais pas combien de gens ont survécu le frapper. Alors, vous voyez, je suis forte. J'ai quand même survécu être rentrée dedans par un autobus. Alors, attention, je suis quelqu'un qui a survécu d'être frappé avec un autobus. Bon, ça se passait dans mon imagination, mais j'ai quand même survécu. Bon, voilà. Question. Vous voyez, ça c'est comment... Alors, le macho, c'est comme un exemple extrême de l'interne, n'est-ce pas? Et donc, le test du macho est un moyen justement pour ouvrir un peu d'espace pour qu'au moins on discute de vos idées. Dans le CD qui s'appelle « Savoir présenter des idées aux gens sceptiques », c'est une formule où on commence avec des objections des personnes et on va de là, en utilisant le test du macho, bien sûr. Il y a une autre chose que je voulais dire là-dessus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir convaincre votre époux, votre épouse, votre partenaire de faire quelque chose et de ne pas avoir réussi? Pas souvent. Alors, il y a des choses à ne pas faire et bien sûr, il y a des choses à faire à la place. Ça vous intéresse?
Ok.
Je vous pose la question parce que si ça ne vous intéresse pas, c'est pas la peine que... Bon, alors... Je suis certaine que tout le monde a fait ceci. Et d'ailleurs, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Quand mon livre est sorti en anglais, j'étais en train de réparer mes dents avec l'orthodontiste. Et un jour, il a acheté une copie de mon livre. J'étais ravie parce que, bon, c'est gentil de sa part, ça venait de sortir. Bon, il a acheté une copie de mon livre. J'entends rien. La plupart des gens ne lisent pas les livres de toute façon. Mais 2 mois plus tard, c'est pas vrai? Combien de livres vous avez empilés chez vous que vous allez lire? Moi, j'en ai plein. Ok. J'ai l'intention de les lire. Voilà. Ils sont même à côté de mon lit.
Aussi de le livre,
oui, voilà. Alors, j'entends rien pendant des semaines de temps. Et là, je reçois un coup d'appel d'urgence du bureau de l'orthodontiste. Qui est-ce qui reçoit un coup d'appel d'urgence venant de l'orthodontiste? Parce que normalement, c'était moi qui l'appelais lui parce que j'avais un problème de trucs dans la bouche. Et en tout cas, je rappelle et la réceptionniste me dit « Ah oui, Raymond veut bien te parler. » Puis là, elle change de voix, elle dit « Et je dois te dire, sa femme est furieuse contre toi. » toi. Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Alors, il paraît qu'ils sont partis en vacances, comme des bons Canadiens, ils sont partis en Floride parce qu'il faisait l'hiver. Bon, nous, on fait n'importe quoi pour échapper au moins une semaine en hiver. Et il avait emmené le livre. Il a passé toute la semaine de vacances en disant, chérie, lis ce paragraphe, c'est à propos de toi. Lis ça, c'est exactement ce que tu fais. Bon, ça, c'est pas la stratégie à avoir avec son époux. D'accord? On est clair. Alors, la raison pour, alors, ce que je suggère à la place, c'est plutôt comme, et vraiment, là, il ne faut pas avoir d'enthousiasme, n'est-ce pas? Sans enthousiasme, vous dites, écoute, j'ai lu ce livre, j'ai rencontré cette femme et j'ai subi un cours avec cette femme et que ça m'a paru intéressant. Ça m'a paru intéressant. Et j'aimerais que tu lises pour me dire ce que tu en penses, toi, parce que j'ai envie de savoir ce que tu en penses.
Mais là, elle ne va jamais se reconnaître si elle est macho, elle aussi.
Mais ce n'est pas la peine qu'elle se reconnaisse, mais qu'elle le lise pour avoir une information. Si l'objectif, c'est que la personne lise le livre, tu peux dire, je ne sais pas si ça t'intéresserait, mais j'aimerais savoir ce que tu en penses. Donc, tu dis par curiosité, tu invites la personne à juger la chose, au lieu de lui dire, écoute, ce livre, tu vas aimer ça, qui ne va pas passer. Ça, on le sait d'avance, n'est-ce pas? Donc, là encore, je vous invite à l'essayer et à m'envoyer un courriel pour me dire si ça a marché ou pas marché, d'accord? Et vous augmentez les chances, je dis que c'est pas parfait, mais vous augmentez la chance que la personne ait envie de faire la chose que tu lui as demandé de faire, par exemple. Tu souris gentiment, Christine,
je
pourquoi?
Je souris gentiment parce que ça me rappelle une époque. Je voulais absolument faire lire Les hommes viennent de Mars et les femmes de...
Et ça a réussi?
Oui, mais j'étais obligée d'utiliser des moyens beaucoup plus radicaux.
Ah oui, d'accord. Ah oui. Un type de chantage, peut-être.
Oui, le chantage.
On ne rentre pas dans les détails, n'est-ce pas?
En fait, on revient à la suggestion comme si c'était quelqu'un qui était en interne. En fait.
Et voilà. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais les gens qui sont les plus sceptiques à notre égard sont nos proches.
Oui, c'est preuve. On verra.
Ben oui, j'aimerais savoir ce que tu en penses.
En même temps, je ne sais pas que ce soit en thérapie ou en coaching, parfois, la méthode directe un peu électrochoc est pas mal aussi, quoi.
Tu peux toujours faire ça, mais si tu commences avec ça et que ça ne marche pas, qu'est-ce que tu en fais?
Ok, c'est ok.
Ouais, c'est risqué. Mm-hmm.
Ben oui. Moi, je préfère commencer en bas de l'échelle de l'escalade qu'en haut. En haut, tu peux sauter de l'échelle après, mais il y a tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Image.
Quand on le fait, il faut que ce soit préparé et calculé.
Et que tu ne le fais pas souvent.
Ouais.
Là, ça, c'est la médecine douce par rapport à une opération chirurgicale. Image. Alerte, image. Voilà. 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 Question, commentaire? Ça vous paraît utile, le test du macho?
Oui.
Alors, vraiment, j'aimerais entendre vos nouvelles après, d'accord? Bon, excellent. Vous me donnez 2 secondes, je change de window. Ah oui, j'avais un autre... Non, c'est ça. Voici la question. J'aimerais qu'on fasse ça autrement, si ça vous tente. On va passer à un autre schéma maintenant. Et la question, c'est pourquoi avez-vous choisi votre travail actuel? Je parle de votre poste actuel ou votre activité actuelle. Et au lieu que vous écrivez tout ce qu'une personne vous dit en réponse à cette question, juste pour faire autrement, pour une fois, je vais vous demander de vous mettre debout et d'interviewer 3 personnes. Donc, mettons, par exemple, moi, je vais voir Nathalie, je lui pose la question, j'écoute sa réponse. Nathalie me pose la question, je lui dis ma réponse, je dis bye-bye, je passe à voir Michel, je fais la même chose. Et je vois une autre personne, d'aller vous mettre debout et de poser la question à 3 personnes. Et après, on va décodifier. Et ce que vous allez chercher en posant cette question, c'est quel type de travail est-ce que vous avez, quel type de travail va vous motiver? Et quel type de travail va vraiment vous démotiver? Donc, ça vous intéresse peut-être à savoir la réponse. Alors, allez-y.
En prenant des notes
Aucune note. C'est juste pour écouter cette fois-ci. Parce qu'on fait autrement.
Ok,
allez-y. 3 personnes à interviewer.